bienvenue ici. Vous êtes tous très valeureux parce qu'il fait un petit peu frais ici. Donc on commence. Voilà, la technique nous a encore lâché. Le truc a lâché derrière. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc on va commencer avec cette première causerie. Il y en aura trois sur le week-end. Il y en aura une cet après-midi à 17h et une troisième donc demain vers 15h. Donc je vais juste présenter rapidement les auteurs qui sont présents sur le plateau. Puis je laisserai à Nicolas le soin de continuer l'introduction de cette causerie. Donc nous avons Mathias Gelberg ici, LL de Mars, à ses côtés Ibn al-Rabin et enfin Berthe. Voilà.
Donc bonjour à tous. Donc la première causerie, il y aura trois causeries qui seront prévues sur le week-end. Quand on a décidé un peu des thématiques, on l'a fait évidemment en fonction des invités qui étaient présents. Donc cette première causerie sera consacrée aux états du dessin, ou en tout cas ce qu'on voulait développer, c'était la relation entre les auteurs et leur travail, que ce soit d'un point de vue technique, puisque la bande dessinée offre une palette incroyable de techniques, que ce soit le dessin, la peinture, la carte à gratter, la gravure. Donc il y a énormément de techniques possibles. Pourquoi et comment les auteurs choisissent ces techniques? Et puis, au-delà de ça, quel est le rapport des auteurs avec leur propre dessin? Est-ce qu'il leur semble naturel de dessiner, ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus difficile et avec lequel ils doivent parfois se battre? Donc ça, c'était une des idées qu'on va essayer d'approcher dans cette causerie-ci. La causerie suivante, ce sera plutôt un plateau plus international, avec une réflexion sur la place de la bande dessinée dans différents pays, que ce soit l'Argentine, la Russie, le Liban, l'Afrique du Sud, et essayer de voir comment existe la bande dessinée dans ces pays, quel est le rapport avec la production étrangère, et puis en poussant un peu plus loin sur le rapport avec la politique, puisque la plupart de ces auteurs utilisent la bande dessinée pour faire soit des constats sociaux, politiques sur leur pays. Et la causerie de demain sera consacrée à la bande dessinée américaine avec Sarah Glidden, Anders Nilsson et Zach Sally, et d'une réflexion sur la vivacité de la bande dessinée américaine. Est-ce que, puisqu'on a l'impression qu'il y a une sorte de régénération constante de la bande dessinée aux États-Unis, est-ce que c'est une réalité ou finalement une illusion qui nous est donnée par la distance, par l'étendue du continent, le nombre d'auteurs, ou est-ce que c'est lié aussi à finalement un travail, enfin une existence très forte du milieu du fanzine qui semble générer, ou en tout cas vivre et générer énormément d'auteurs et d'approches très intéressantes. Donc ce sera les trois causeries qu'on va vous proposer. Et donc pour cette causerie-ci, on va tout de suite démarrer. Je vais démarrer avec LL de Mars, puisque tu as...
Il est là.
Tu as réalisé un film sur le dessin, qui est Mouvement Continu, où tu te filmes en train de dessiner. Et voilà, pour démarrer cette conférence, enfin cette causerie, est-ce que tu peux nous expliquer quelle était ta démarche? Pourquoi est-ce que ça t'a semblé important de présenter un film sur le dessin, sur la façon dont naissait le dessin, les traits et cette ambiance particulière?
Ce film s'articule en fait à une série de travaux consacrés à la pratique de l'art comme mouvement continu de l'advention du sujet. Donc, si vous voulez, nous, non pas la vie comme une série, mais vraiment comme une espèce d'entéléchie, comme disaient certains philosophes grecs, quelque chose qui ne cesse d'advenir, de changer, de se transformer, et par quoi moi-même je me transforme. Un film qui vise en fait à présenter le dessin comme un moyen d'apparition du sujet que je suis, et c'est-à-dire plutôt comme un mouvement spéculatif que comme une instrumentation. C'était essentiellement un film pour quitter la conception instrumentale du dessin, voir ce qui, dans le dessin, était de l'ordre de la vie même, voilà, comme forme de vie. Ouais. Le film en question est sous-titré « Du dessin comme danse », pas que j'ai la moindre aptitude à parler de danse, mais bien pour montrer que ce que je dessine, ça n'est pas quelque chose, c'est pas un objet, c'est assez banal hein, ce que je vais vous dire, mais je dessine mon dessin, voilà. Par mon dessin, je dessine et l'objet qui est le sien n'est pas figurable à proprement parler. Ça n'a pas tellement d'importance. Plutôt, ce serait une erreur de croire que le dessin est un moyen par lequel on touche à la figurabilité. Ce n'est pas ça qui se passe. C'est plutôt le mouvement d'une naissance complète qui a une conséquence, c'est vrai, cette conséquence est un dessin, une planche, ce que vous voulez, mais cette conséquence est à mes yeux beaucoup moins importante que le trajet qui y conduit. D'une certaine manière, pour moi, le dessin résume assez bien la façon dont je considère le sujet humain d'une façon générale. C'est peut-être pour moi le moyen le plus clair de donner un aperçu de ma conception du sujet, c'est de dessiner. Je vous dis quelque chose de ce que j'en pense du sujet. Voilà. Est-ce que c'est clair ce que je dis ?
Oui.
Oui. C'est tout pour l'instant. Mathieu, tu.
Ah, mais moi,
tu t'en fous, on t'a pas posé de questions. Je répondrai peut-être mieux à des questions plus précises. Je sais pas si tu as des.
Non, je trouvais ça c'est intéressant. Est-ce que pour Hubert, par exemple, dans ton rapport au dessin, donc tu travailles finalement, tu as produit assez peu de bandes dessinées, mais beaucoup d'illustrations, et on projette des images, mais ton travail apparaîtra bientôt, qui est un travail qui est très, très fouillé, très méticuleux. Quel est, toi, ton rapport au dessin ? Est-ce que c'est quelque chose qui est naturel, ou est-ce que tu as vraiment, puisque tu es un auteur qui finalement est assez rare, une propension à hésiter énormément ou à t'appliquer particulièrement ?
Moi, c'est plutôt à m'appliquer, c'est assez naturel, mais comment dire, le dessin, enfin déjà, j'aime bien avoir. Enfin, le dessin pour moi prend quand même pas mal de temps. Enfin, j'aime bien étirer le temps au moment du dessin, le faire. J'ai passé un truc très 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 sensitif ou intime ou personnel quand je dessine. J'ai toujours une idée de où je veux arriver quand je commence. La première ligne. Et j'essaie d'accepter au mieux ce qui peut arriver, les accidents au moment même, ou même des crises d'angoisse où je suis parti sur un dessin pendant 8 heures et tout d'un coup je me dis, oh là là, mais où est-ce que je suis parti? Et ah oui, ça s'entend, c'est un peu. C'est perturbant, c'est non, c'est pas grave. Mais je peux par exemple comparer ça au tai chi. Enfin, je pratique le tai chi depuis un petit temps, de façon plus ou moins suivie. Et là, dans le tai chi, on travaille la forme du tigre, qui est une suite de 108 mouvements. Et le truc principal, c'est l'ancrage au sol. Et on travaille d'abord à l'apprentissage de ces mouvements-là, et ensuite, il faut changer un peu les angles de vue quand on travaille la respiration, la position des jambes, ces choses-là. Et à un moment, quand on connaît bien le truc, quand on connaît bien la chose, l'esprit peut. Se libère, quoi. Ça rentre un peu dans quelque chose de méditatif, et pour moi le dessin c'est quelque chose d'assez proche de ça, quoi.
Et toi, Ibn al-Rabin, est-ce que tu as ce rapport par exemple méditatif au dessin, ou est-ce que c'est quelque chose, puisque là tu as une production particulièrement abondante, est-ce que c'est quelque chose qui est méditatif, ou bien justement c'est une sorte d'élan qui semble t'emporter avec lui?
Non, je suis pas très méditatif quand je dessine, parce que pendant des années le dessin m'emmerdait un peu. Enfin, c'est-à-dire que je me sens un peu mal pour parler du dessin en dehors de la bande dessinée, parce que moi je fais de la bande dessinée en fait. J'ai pas l'impression que j'ai grand-chose à dire sur le dessin en général. Mais comme c'est la bande dessinée qui m'intéresse, je suis relativement feignant de ce côté-là. Enfin, j'ai été feignant pendant des années et du coup j'ai fait plein de livres. Maintenant, je le suis moins, j'en fais beaucoup moins parce qu'il faut s'appliquer plus. Donc, Enfin, j'ai retrouvé le désir de faire des dessins plus. Enfin, j'arrive pas à faire un dessin pour lui-même en général. Pas du tout comme toi ou comme vous tous. Le dessin en soi m'emmerde vite, quoi. Ça m'intéresse pas tellement. Mais à compte personnel, hein, je parle pas des productions des autres. Et donc quand j'en fais un, même assez fouillé, je tente qu'il soit inclus dans une histoire ou dans quelque chose qui m'intéresse. Et donc au niveau méditatif, c'est moyen. À part quand je remplis les noirs de mes petits personnages. Mais c'est pas très méditatif non plus.
Tu as aussi produit qui apparaissent une série de peintures, par exemple. Est-ce que là, tu as un rapport différent à la...
Lesquelles ?
Ah,
sur mon site.
Voilà, qui apparaissent sur le site, le travail et la peinture.
Alors ça, ouais, je pourrais pas... C'est comme de temps en temps, on va faire du foot avec des copains. Et on n'est pas très bon, mais c'est quand même assez amusant à faire. Et puis des fois on fait de la peinture, quoi. Enfin, parce que je sais pas, il fait pas beau, ou on a envie d'essayer. Non, j'ai essayé un peu, mais ça c'est vraiment juste, je les ai mis sur mon site comme ça parce que je trouve, il y en a certains que je trouve graphiquement un peu intéressant, mais ça va pas très loin. C'est pas du, j'aurais pu faire un gâteau à la place ou perdre du temps sur. Il se trouve que des fois on perd du temps d'une manière et ça reste. Si on perd du temps à jouer à un jeu débile sur un ordinateur, ça reste peu. Donc ça se voit pas et des fois on perd du temps à faire un site internet sur lequel on met toutes les choses sur lesquelles on a perdu du temps. Donc voilà, non, mais enfin j'ai quand même un peu retrouvé ce côté où on se plonge dans quelque chose. J'ai fait un très très gros tableau qui est pas là-dessus, mais qui m'a pris 4 mois par exemple, mais c'était quand même inclus dans une histoire. Enfin j'ai pas pu m'empêcher. Et donc oui, il y avait quand même ce côté un peu hypnotique où ça avance petit à petit, tata. Et j'ai un peu retrouvé ce plaisir-là, mais je ne l'ai pas eu pendant très longtemps, effectivement. Aussi parce que j'avais trouvé une manière... Enfin, je me sens très rapidement... je m'encouble, c'est un mot suisse. Je trébuche dans mon dessin si... je trébuche dans mon récit si mon dessin prend trop de temps, en fait. Il avance pas. Enfin, j'arrive pas à le faire avancer au rythme qui m'est naturel. C'est pour ça qu'en fait, je fais pratiquement... C'est drôle que tu dis que je fais beaucoup de choses, mais depuis 4-5 ans, je fous vraiment pas grand-chose. J'ai fait sans doute moins de livres que tous ces gens-là. Sauf que comme il y en a eu beaucoup qui sont sortis avant, ça fait, ça donne une autre impression. Mais voilà, donc les petites peintures qu'on voit apparaître là, c'est très modeste. C'est vraiment de l'amusement ponctuel, en fait.
Ok, donc je vais poser une question à Mathieu pour faire terminer ce premier tour de table. Quel est votre rapport tout simplement au dessin et pourquoi avoir par exemple choisi plus particulièrement la technique de la carte à gratter?
I can relate to the things that these people said earlier, because there's a lot of similarities, like there's this sensual aspect going on when I'm drawing them. But essentially, I think I feel that my comic work is not like it's not like drawing in itself. It's more like writing.
Je retrouve beaucoup de parallèles avec ce qui a été dit par les gens auparavant. Mon travail, mon bande dessinée n'est pas sur le dessin, mais c'est plus sur un travail d'écriture.
So I call it my method of writing.
J'appelle ça ma méthode d'écriture.
And so basically, when I think that I'm drawing, then I'm not doing my comic work. I'm just like drawing something from like observation or this more freer way of expressing myself.
Quand je dessine, je ne travaille pas sur mes bandes dessinées, c'est du dessin comme du dessin d'observation, où je suis plus dans une expression libre de moi-même.
And about Scribbleboard, when I was in the university, I was doing these large charcoal drawings. And the method was so that I would fill the entire paper with charcoal first, and then I would wipe away the white areas.
Quand j'étais à l'université, je travaillais avec du fusain, et la méthode c'était que je remplissais au fusain l'ensemble de la page et qu'ensuite j'effaçais des zones. C'est une référence à son travail sur la carte à gratter.
And I enjoyed this approach. It was more closer to perhaps painting or perhaps even sculpture. And then I had like quit comics. This was in the early 90s, and I had been doing comics from 1982, and then when I entered the university, I had quit, more or less, and I was planning to be a painter or whatever. But after these like charcoal things, I started to feel that maybe I should try something on black, starting from the black, and I had some scrapbook lying around, and I had this like carpet knife, so I started to work on it, and I'm still doing this.
Donc c'était une approche qui me plaisait beaucoup. C'était quelque chose qui était proche de la peinture ou de la sculpture. Et en rentrant à l'université, j'avais commencé à faire des bandes dessinées vers 92. Et en rentrant à l'université, j'avais arrêté. Et quand j'ai commencé à découvrir cette technique, ça m'a donné envie de revenir. Et j'avais des cartes à gratter qui étaient par là. Et puis j'ai pris un petit couteau. Et puis j'ai commencé à gratter. Et puis ça m'a plu. Et aujourd'hui, je suis encore à utiliser cette technique.
And it's as a technique, it's rather slow. You have to spend some time with the work, and this gives you like time to think about the text and what happens next. So basically, it's like this process of working. And for me, the writing is, the drawing part, if I now call it drawing, the drawing part is very slow, but the writing is even slower.
En fait, c'est une technique qui prend beaucoup de temps, qui demande à ce qu'on passe beaucoup de temps sur l'œuvre. Et ça, généralement, ça me permet de réfléchir à ce qui va se passer et ce qui arrive après. Et en fait, ma technique de dessin prend du temps, mais finalement, l'écriture prend encore plus de temps.
Mais vous utilisez aussi, par exemple, pour votre dernier roman dessiné paru en français, Hard West, une technique qui va être à la plume, qui est fort différente finalement de l'approche que vous avez. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vous avez utilisé cette technique pour vraiment changer d'approche de travail, ou c'était vraiment lié au contenu de cet album qui, pour rappel, est une sorte de critique, donc c'est un ensemble de sortes de reportages où on réunit des points de vue de fans de la série Calamity Kid et qui sont outrés par l'arrivée d'un nouvel auteur qui a totalement bouleversé le côté classique. Et donc c'est une sorte de réflexion sur la bande dessinée et sur la façon dont les amateurs peuvent s'outrer de finalement de changement, de sortir du classique pour cet album là.
The chosen technique is definitely linked to the subject matter. It sort of serves its purpose.
J'ai vraiment adapté cette technique au sujet. Il y a vraiment une volonté consciente dans ça.
I started this book when I was in the middle of my latest bigger book, which will be translated to French in within 2 years or something. It was taking for a long time to finish this book. Eventually it took me 5 years to do.
J'ai commencé à travailler sur Hard West alors j'étais en plein milieu de mon dernier livre qui paraîtra en français d'ici 2 ans. C'est un livre qui m'a pris beaucoup de temps, qui m'a pris à peu près 5 ans pour le terminer.
And I was desperate to, or I had this feeling that I'm not publishing anything. It's taking forever, and not doing anything. I have to start some side project, and Then I came across this there's this discussion board in the internet in for Finnish comics and comics fans, and there was some like idiots talking about like Tex Willer and the Finnish Donald Duck drawer Kari Korhonen, who happens to have birthday today, actually. So there were some people saying like nasty things. I'm not a fan of his work or anything, but it's sort of like amateurs, and I sort of got pissed, and I think that okay, this is such an outrageous discussion, and kind of very funny also. So I started to go through the discussion board and pick some lines from there, and. But you can translate.
Donc à ce moment-là, j'étais un petit peu angoissé à l'idée de ne rien publier, puisque ce projet, on m'a dit parler, était très long, et donc j'avais besoin d'un projet à côté. Et je me suis retrouvé sur un site ou un forum de discussion finnois où il y avait des discussions assez enflammées autour de vieilles séries comme Tex Willer ou comme un dessinateur finnois qui a repris Donald, dont Mathis n'est pas très fan, mais sur lequel il y avait beaucoup de discussions très très enflammées, beaucoup d'attaques. Et donc j'ai commencé à regarder ces discussions, et il y avait beaucoup de répliques, de phrases que j'ai notées et que je trouvais très drôles.
So I wanted to make it as easy as possible, so I just started to draw in my notebook and make like six panels on every page, and each morning when I was having coffee, I would draw like one page or two without any like real script. I was just making up while I was going, and then the real work, of course, was when the whole thing was like finished. Then I would have to decide which one goes where and sort of rearrange everything.
Comme je voulais que ça ne prenne pas trop de temps, j'ai commencé à dessiner dans mon carnet. Et ce que je faisais, c'était tous les matins avec mon café, je dessinais une page avec six cases, et comme ça, en improvisation, sans vraiment réfléchir où j'allais. Et le vrai travail a commencé lorsqu'il a fallu réorganiser tout ça pour en faire un tout cohérent et savoir où telle page allait se positionner dans l'ensemble du projet.
Donc Mathis parlait de... Oui, tu voulais réagir ?
Juste un truc. Ce qui me paraît intéressant dans ce que Mathis racontait par rapport à la façon dont Mathieu cloisonne un peu les différentes activités. Mathieu dit « je fais de la bande dessinée ». C'est important qu'il le souligne, puisqu'on est quand même là pour parler d'une forme très particulière du dessin. Et il dit « je fais de la bande dessinée », donc du coup je suis moins attentif à ce que le dessin pourrait produire de... Excuse-moi, je te le dis. Là où Mathis déplace finalement la frontière habituelle entre diégèse et mimésis, pour dire les choses plus clairement, entre ce qu'il raconte et ce qui se voit, je pense que il n'y a pas tant que ça de différence, qu'à partir du moment où le dessin commence, et à partir du moment où on admet ceci, c'est qu'il est lui-même déjà spéculatif, quelque chose se raconte. Quand j'étais adolescent, Godard tournait un truc qui s'appelait Passion, qui essayait de tisser un pont interrogatif entre le cinéma, la vidéo et puis la peinture. Il tentait de recomposer de façon assez curieuse des grandes toiles de maître qu'on connaît tous, c'était la ronde de nuit de Rembrandt, enfin ce genre de choses. Et ce qui l'intéressait, c'était de traquer la lumière, mais pas la lumière pour lui ressembler. La lumière comme instrument de travail pour un cinéaste, et qu'est-ce qu'elle devient dans la peinture ? Donc qu'est-ce qu'elle est comme instrument de travail ? Elle n'est pas au même moment dans la peinture. Elle est dans un moment particulier, dans un moment de composition, de théâtralisation des corps, et on travaille avec elle en visant à lui répondre. Alors que le cinéaste fait tout à fait autre chose. Elle fait étroitement partie du matériau même avec lequel il travaille. Donc Godard, à un certain moment, présente un personnage qui est très très dubitatif devant le but de tout ça, devant ses compositions, et qui exige d'avoir clairement une réponse. C'est quoi l'histoire de votre film, quoi ? Qu'est-ce que vous nous racontez ? Et Godard, comme d'habitude, fait le malin, et il fait ça très bien. Il approche son doigt lentement d'un écran. Ça veut dire que lui, à mesure que nous approchons près de l'écran de la vidéo, il s'abolit. En tant que réalisateur, il disparaît et s'abolit aussi à ce moment-là une des membranes, enfin une des pellicules du cinéma, puisque nous approchons d'un écran de télévision. et nous approchons d'une bouillie de pixels. Il pointe son doigt vers un des pixels et il dit « L'histoire est là ». Alors évidemment, son interlocuteur n'a pas l'air de se satisfaire de cette réponse, et pourtant c'est une excellente réponse, si vous voulez. Parce que dans cette toute petite partie, dans ces quelques centimètres carrés de pixels, très clairement, il y a quelque chose d'immense qui est en train de s'écrire, de se raconter, c'est pas rien. Et je pense que quand on commence à dessiner, là je parle du point de vue du dessinateur, quand moi je commence quelque chose, je commence à raconter quelque chose. C'est porteur d'abord des conditions d'apparition du dessin lui-même, ça n'est pas rien. Les conditions d'apparition du dessin, c'est juste la façon dont à la surface du papier s'organise. Pourquoi tu glousses ?
Parce qu'on dirait que tu parles de biologie.
Mais non, les conditions d'apparition, c'est plus social que biologique. C'est comme quand, c'est pas les conditions d'apparition sociale de la peinture, par exemple, c'est une exposition. C'est simple, ça. Tu vois, les conditions d'apparition technique de quelque chose, ça peut être dit aussi de façon assez pragmatique.
Oui, mais les conditions d'apparition d'une maladie aussi. Enfin bref, non, mais si, c'était continu.
C'est tout ça pour en arriver à une chose très simple, une fois de plus, beaucoup, beaucoup de paroles pour dire quelque chose de très simple. C'est qu'il n'y a pas de frontière fixe dans une bande dessinée entre diégèse et mimésis, en gros, entre les figures qui s'organisent et l'histoire qu'on raconte. Il y a des travaux qui sont exemplaires de ce point de vue, même ceux qui ignorent à quel point ils le sont, genre le travail de mon voisin de gauche, qui semble ignorer à quel point son dessin raconte énormément de choses, même en dehors du service auquel il se met, de ses histoires. Tu parles de tes dessins comme s'ils étaient aussi au service d'une raison supérieure, qui serait le récit. Mais je crois que c'est les sous-estimer, en fait. Voilà.
Désolé d'être aussi long. Je ne sais pas faire.
Non, mais moi, je suis très content de savoir que mon dessin fonctionne.
Il y a peut-être une question qui est pas si loin. Vous avez parlé de tai chi ou de danse. Quand on choisit une technique, finalement, on choisit aussi, ou on choisit pas peut-être, mais en tout cas, le corps est impliqué. On va se plus ou moins se tâcher selon ce qu'on utilise. On peut se couper si on est dans la gravure, si on travaille dans des grands formats. On va se retrouver à faire des gestes beaucoup plus amples. Si on travaille sur quelque chose de plus petit, on va peut-être être courbé sur un bureau. Est-ce que vous avez pu identifier, selon l'implication de votre corps dans ce que vous faites, est-ce que vous avez pu identifier un rapport entre les deux, la contrainte, la minutie, au contraire, l'espace, et je ne sais pas si vous vous déplacez beaucoup entre divers éléments pour dessiner ou produire votre objet.
Bon, je réponds un peu à côté parce que j'ai une technique super. J'utilise des feuilles et des feutres tout bêtes, quoi. Mais ça me permet de dessiner n'importe où. Et comme ça dépend des périodes, mais j'ai de la peine à dessiner seul chez moi quand il n'y a pas de bruit et que je m'embête. Parce que j'ai tendance à me. Enfin, comme ça m'embête un peu, j'ai tendance à faire très vite autre chose. Alors que si je dessine dans un bistrot, par exemple, comme je m'amuse un peu parce qu'il y a des gens à qui causer, je peux dessiner assez bien. Mais ça dépend des périodes. Il y a aussi des périodes où j'y arrive pas. Enfin bref. Mais l'implication corporelle, c'est plutôt une implication sociale, du coup. C'est que le fait que ce soit très simple, on peut le faire n'importe où, un peu de choses. Alors que d'autres choses ont besoin de. Mais voilà, il y a des moments où ça me correspond très bien d'être au milieu du bordel pour dessiner. Et d'autres moments où pas du tout. Donc, mais avec cette technique, on peut le faire de toute façon, quoi.
Oui. Moi, ça dépend si je travaille à mon bureau ou avec mon carnet dans la rue. Bon, le carnet dans la rue, le rapport parfois peut être corporel, ça peut être un peu douloureux. Par exemple, on est mal assis, on est dans un coin, on a envie de dessiner, je sais pas, un paysage urbain, et hop, on doit trouver un coin, un angle de vue, quoi, et parfois la position n'est pas confortable, quoi, donc ça donne dans les jambes quelque chose comme ça. Par exemple, si je suis assis à ma table, à mon bureau, là je mets des conditions pour être confortable, je mets de la musique, enfin, je sais pas, un truc qui n'est pas trop mélodique, enfin, comme ça me permet de rester concentré, et puis je joue, enfin, même si je n'ai pas l'impression de ne pas trop bouger, il se passe plein de trucs, enfin, au niveau des petits trucs imperceptibles, au niveau des jambes, ou par un chose comme ça.
Pour ma part, j'ai un rapport extrêmement physique au dessin, extrêmement brutal en fait. Donc en général, pour que quelque chose apparaisse vraiment, il faut que ça me fasse violent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dessine depuis très très longtemps, on prend assez vite des très mauvaises habitudes. Tu vois, ça peut être devenir ça peut devenir si spontané, si évident qu'on oublie complètement l'enjeu, il n'y en a plus, et puis on fait ce qu'on sait faire. Donc je m'inflige plutôt des situations d'une grande violence, d'une intensité maximum, pour justement ne pas retomber trop facilement dans mes habitudes. Ça explique le bordel de ma bibliographie, rien ne ressemble à rien, on se demande pourquoi c'était l'écart entre chaque livre. C'est parce que, essentiellement, chaque livre est le début d'une nouvelle tension, d'une nouvelle intensité, d'une nouvelle situation. Et du coup, la contrainte physique, corporelle, fait partie aussi de ce jeu. Ça veut dire des séances marathoniennes, parfois, de dessin, où je me lève très très tôt et je dessine jusqu'à l'épuisement. Et je ne garde que les deux dernières heures de 10-15 heures de travail. Ou alors je travaille avec des drogues dures qui abîment beaucoup la méthode. Donc j'ai très peu de contrôle sur ce que je fais. Donc ça devient une lutte contre la violence de ces drogues qui m'empêchent de faire ce que je sais faire, tu vois. Et du coup, je jette beaucoup, je renverse tout. Et juste l'organisation du travail devient complexe. Il faut que tu aies tout autour de toi. Parce que juste perdre une gomme quand t'es raide défoncé, c'est deux heures de perdu pour la retrouver. Ou tu tombes. Pisser devient un cauchemar parce que ton appartement ou ta maison est trop grande. Donc il faut un seau pour pisser à côté, pour travailler. C'est pour ça que je travaille toujours très 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 seul. Hein. Voilà, ça peut être ça ou m'assommer de musique extrêmement violente qui m'empêche de travailler. Voilà, souvent il y a un côté un peu démesuré. Comme c'est pas sportif, hein, c'est juste c'est la forme de ma contrainte, c'est mon oubabo à moi, c'est de me mettre dans des situations difficiles. Voilà, ça répond à ta question.
Est-ce qu'on pourrait faire alors peut-être une opposition un peu stupide, je ne sais pas, en tous les cas deux bornes peut-être un peu différentes, entre quelqu'un qui serait peut-être plus sur un fonctionnement qui se rapprocherait plus celui de l'écrivain, qui consiste à faciliter un maximum la sortie du flux du récit, de l'avancée, quelqu'un qui chercherait au contraire à s'investir lui au maximum, pas que la personne qui va on va dire plus écrire soit moins investie, mais qu'il y a un côté où il y a un investissement corporel nécessaire, vraiment un besoin d'incarner l'œuvre.
Il n'y a pas de réponse générale à ça. C'est-à-dire que, très clairement, quand je parle de cette situation, elle est fonctionnelle que pour le pauvre type que je suis. Avec mon voisin, ça ne marche plus. Et pour l'écriture, il en va de même. Un type comme Michaud a traversé l'écriture avec la mescaline. En gros, le travail d'écriture poétique de Michaud, qui est loin d'être, tu vois, déluré, insaisissable ou furieux, est un travail de contrainte avec la mescaline, avec toutes sortes de dopes. D'ailleurs, il a essayé le payol, qui se prête très très mal à l'écriture. C'est-à-dire ça te rend surtout très malade pendant un moment, puis après, tu n'as pas d'action précise. Enfin, je déconseille, hein, d'essayer au payol, ça marche très très mal. Et donc tu vois, il y a des pratiques de l'écriture qui sont violemment prises aussi comme là-dedans. Je crois que Laurie était défoncé à l'alcool tout le temps quand il écrivait. Donc c'est pas quelque chose, si tu veux, qui assigne une pratique à une discipline, précisément. C'est pas un problème d'écriture. Ça laisse entendre que je n'écris pas, par exemple. Mais c'est juste parce que je n'en parle pas. On parle du dessin ensemble là. Donc effectivement, je laisse de côté la question de l'écriture. Mais c'est crucial pour moi, l'écriture. Sauf que là, on parle de dessin. Je ne pense pas, tu vois, que ce soit aussi... que les typologies soient aussi rangées. Au contraire, je crois que c'est très fluide, tout ça. Je pense que pour un dessinateur de bande dessinée, a fortiori, c'est un travail, enfin, disciplinairement en tout cas, d'une grande fluidité. Et c'est très, très pour eux, les membranes entre écriture et dessin.
En fait, je pense qu'il y a plusieurs manières d'être habité par ce qu'on fait. C'est vrai. C'est difficile de tenir quelque chose sur le long terme. J'ai fait un très gros livre qui faisait 1000 pages, en fait. Bon, même si je faisais très... Merci.
même si je faisais les pages très vite, ça prend quand même vraiment du temps, etc. Donc pour pouvoir continuer à avancer là-dedans sans trop en avoir marre, il faut être un peu habité par la chose. On peut être habité par plein de trucs différents dans la vie, mais il y a des gens qui ont plus tendance à être habité par la volonté du dessin, n'est-ce pas ? Enfin, ils se font plus habiter par le moment graphique, le moment de création graphique. Alors moi, pas des masses, et j'ai plus tendance à m'habiter de l'univers. Enfin, c'est un peu là, ça devient des clichés à deux balles, mais de l'univers que je suis en train d'exprimer sur le papier de manière assez. Bah, bref. Et voilà, c'est pour ça d'ailleurs que ça fait assez longtemps que j'ai pas produit de choses grandes et longues. Je ne suis plus habité. Je ne m'habite plus. Rien ne m'habite. Que voulez-vous que je vous dise ? Non, mais voilà. Et donc, il y a des moments. Il y a des moments où on est vraiment habité de quelque chose. Mais ça peut être quelque chose d'assez léger comme sensation. Mais on a une tendance à revenir sans arrêt dans une chose. Une chose qu'on est en train de faire de manière naturelle parce qu'on y pense un peu, tout, même quand on n'est pas en train de le faire. Ça peut être pareil avec n'importe quoi. Hein. Mais donc il y a des tendances plus, je pense, d'habitation graphique et d'habitation narrative pour caricaturer énormément.
Il n'y a pas nécessairement des signes.
Moi, par rapport à ça, il y a une question sur laquelle je voudrais revenir, c'est vous parlez beaucoup de temps. Et effectivement, bon, Mathis parlait d'un ouvrage qui lui prend 5 ans à faire. Mathieu, quand tu as fait à l'autre fin du monde, je ne sais pas combien de temps ça t'a pris, mais je suis sûr que tu n'as pas fait ça en 24 heures. Donc c'est aussi par rapport à ces questions de rapport au dessin, il y a un rapport, je pense, au dessin qui est quand vous faites le dessin lui-même, mais comment vous maintenez cette chose-là sur la durée ? C'est-à-dire le rapport, Laurent, tu parlais de cette violence que tu pouvais avoir, mais cette violence sur la durée, comment tu la maintiens ? Comment est-ce que tu fais en sorte que l'ensemble du livre puisse témoigner de la même intensité ? Alors que chacun de tes dessins va être quelque chose de dur enfin, à produire ou d'interrelation au corps.
Après, ça devient vraiment une question de rapport à ton dessin, enfin à ton travail d'une façon générale. Et je veux dire, là encore, quelque chose de banal, ça dépend de l'honnêteté avec laquelle tu travailles. C'est-à-dire que si tu travailles sans trucage, si ton travail est honnêtement la chose qui s'impose à toi tous les jours, la question ne se pose même pas, en gros. C'est, de toute façon, l'intensité, elle est là à partir du moment où tu n'as pas quelque chose à faire. Je ne sais pas si c'est propre à ma façon de travailler, mais je n'ai jamais de projet à proprement parler. Les choses arrivent parce qu'il s'impose qu'elles arrivent, tout simplement. Et ce qui fait abdiquer l'intensité, c'est juste la fatigue. Il y a un moment d'épuisement où je ne peux juste plus travailler. Mais comment dire ça ? C'est quelque chose de très très visible quand on rentre dans mon atelier. Par exemple, il y a le petit espace où je travaille, une espèce de cauchemar de couleurs et de matériaux, si tu veux. Mais dans le dos, il y a un mur qui couvre tout l'atelier où il y a des petits post-it de rien du tout qui sont les idées de livres que je veux faire. Ou des fois ces idées c'est pas des mots, des fois c'est des formes. Une forme peut être un puits d'invention narrative. La rencontre de deux formes peut être déjà la cause d'un récit. Et c'est des toutes petites choses enfilées sur des longues épingles, et il y en a des couches, et chaque chose est un livre possible, et il n'y a plus de place sur ce mur, en fait. C'est-à-dire qu'il est intégralement du sol au plafond couvert. C'est ça, l'intensité quotidienne. Si je rentre là-dedans, c'est déjà très, très excitant de voir toutes ces choses. Je sais que je n'aurais pas 10 vies, enfin, ça ne suffirait pas pour faire toutes ces choses. Et donc, je suis déjà pris par la joie, enfin... Oui, on peut dire ça, une espèce de joie furieuse au travail, parce que tout ça s'ouvre comme champ de possible. Et chaque nouveau travail, en plus, est surprenant. Si tu veux, tu commences quelque chose, et tu ne vas pas forcément là où tu veux, et donc du coup, ça fleurit jusqu'à ce que tu tombes de fatigue, et voilà.
Par rapport à ça, justement, je voulais... Comme tu parles justement de ne pas avoir assez de vie pour faire tous ces projets, est-ce que Mathis, par exemple, quand il doit se lancer dans un projet de 5 ans, est-ce qu'il il a l'idée au départ qu'il va se lancer sur un projet qui durera 5 ans, ou est-ce que c'est quelque chose qui va finalement, un projet qui va durer 5 ans, mais le découvrir au moment de sa conception, et puis voilà, enfin, déjà ça.
Yes, well, definitely. The last book that's not yet in French. It's my plan was to. I knew that there was like three books at some point. That Holmenkollen and Kekkonen, and then the third one. And I had some preliminary scripts. And the idea was to make it 72 pages, but soon I started to notice that it would not be this way, and eventually just built up to 216. So, but this is like this has been now my process of working for some time that. But you can translate.
Quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet, en fait, j'avais l'idée qu'il y aurait un troisième livre après Holmenkollen et Kekkonen, et qu'il fallait y avoir un troisième livre. Et au départ, je pensais que ce serait comme les deux autres, un livre qui ferait à peu près 72 pages. J'avais fait un script, et puis quand j'ai commencé à travailler dessus, je me suis rendu compte qu'il fallait faire beaucoup plus et que ça allait terminer sur un projet qui ferait 116 pages.
So my process of working is like with all these books that I have some very vague idea or a feeling of the book that is like forthcoming, and then I have some scripts, and I start working on those scripts, and then from those scripts I get new ideas, and because I always work like sort of stories that like combine and intertwine.
En fait, ma méthode de travail est très proche de ce qui a été évoqué ailleurs, c'est-à-dire que je commence, j'ai pas vraiment d'idée où ça va se terminer, donc j'ai des scripts, j'ai des morceaux d'histoire, et puis plus je progresse, plus je rajoute de nouvelles choses. Et en fait, ma méthode de travail, c'est que j'ai plein de petites histoires, et que ensuite je les tresse et je les combine et je les mélange, et ce qui fait le récit à la fin.
So I have some basic idea that there's going to be a book, and it's going to start with approximately like with this story, and it will continue through these stories and end with like these stories or this feeling, and then I will start working, and I leave like pages off first when I start a story. I don't finish the story right away, any story, maybe some, but I start working, I leave some gaps, I leave some text off, I draw everything more or less finished. Then I return to the story. I finalize the text and maybe add some pages, maybe add some panels, maybe change something altogether. Decide on the order of the stories. And this is like the place where the book is finally like taking form.
Quand je commence à travailler sur un livre, j'ai une idée assez vague de par quoi ça commence, ce qui va se passer au milieu, et à peu près comment ça va se terminer. Et puis je commence à le dessiner. Parfois j'ai des histoires qui ne se terminent pas, je les mets de côté. Et petit à petit j'avance. Et puis une fois que je suis au bout, je finalise le texte, je regarde le livre dans son ensemble. Et puis là, il y a des retouches qui se font. Il y a des pages que je rajoute ou bien des cases que j'organise pour être sûr que l'histoire prenne forme. Et c'est vraiment à ce moment-là que le livre se réalise et se finalise.
So I try to keep the book open to change for as long as possible, so that the last changes would take place in the last changes in my last book took place in when the book was already in the printer, and I changed some text or something.
J'essaie de garder le livre ouvert et capable d'évoluer le plus longtemps possible. Par exemple, le dernier livre, le cas le plus critique, c'est que le livre était chez l'imprimeur et j'ai changé encore quelques textes, quelque chose, pour avant que le livre soit finalisé.
Par exemple, Mathieu, toi, sur un ouvrage comme L'autre fin du monde, est-ce que tu as aussi laisser cette ouverture totale au moment de l'écrire, ou est-ce que tu avais effectivement quelque chose de très très précis en tête au moment de démarrer un ouvrage aussi conséquent?
Non, en fait, j'avais fait, mais c'est, je fais jamais de scénario à l'avance, ça se voit un peu d'ailleurs. Je fais toujours au fur et à mesure mes histoires. Mais justement, je reviens à l'habitation. Quand il se trouve que par hasard on est habité, en fait, ça va tout seul. C'est pas très, c'est beaucoup moins compliqué à faire que ce qu'on pourrait croire. Enfin, moi, je pourrais pas faire faire un scénario et le dessiner après. Je perdrais complètement ce côté. Enfin, peut-être que je pourrais le faire plus tard, parce que comme je suis pas habité par le dessin, le faire juste du dessin au bout d'un moment, ça me remplirait d'ennui en fait très rapidement. Et pour ce livre-là, j'avais fait le premier chapitre comme ça, et j'aimais bien le premier chapitre. Et alors, comme je savais pas comment continuer, je l'ai laissé assez longtemps de côté. Et après, j'ai pris la solution un peu de, entre guillemets, de facilité, c'est-à-dire de, pour pas abîmer quelque chose, je l'ai noyé dans quelque chose de très gros. Donc j'étais à peu près sûr que j'allais pas le gâcher par quelque chose d'inapproprié juste après, mais avec un peu de chance, l'étendre suffisamment pour que ce soit intéressant. Et ça venait petit à petit, en fait. Mais c'est vraiment une affaire d'être... j'ai l'impression d'être un nouveau gourou transida. C'est vraiment une affaire que quelque chose... que tu te trimbales avec quelque chose un peu tout le temps. C'est pas très douloureux, ni très... ça n'empêche pas qu'on peut faire énormément d'autres choses en même temps, mais ça permet d'aller très naturellement, assez, de faire des choses relativement, enfin, ce qui me concerne, relativement cohérentes, je crois, j'espère, sans avoir besoin de les planifier. En fait.
Par rapport à cette habitation dont tu parles, par exemple, maintenant tu dis ne plus être habité, mais est-ce que finalement c'est quelque chose, qui t'angoisse ou qui te pose un problème, et est-ce que tu luttes contre, est-ce que tu te dis il faut que je me nourrisse, que je regarde des films, d'autres BD, des romans, que tu essaies de retrouver une sorte de façon de nourrir ton travail?
Je vois pas comment on peut forcer ça, en fait. Mm-hmm. Même en... Enfin, au bout d'un moment, je pense que j'en ai le problème avec mon dessin, que j'aime bien, je suis assez content de mon dessin, mais c'est que je peux quand même me lasser de faire ça quand même au bout d'un moment, parce que c'est quand même très et je vais le faire un peu trop bien aussi, comme il disait. Enfin, c'est un peu gonflé de ma part, mais c'est un dessin très simple, c'est facile de le maîtriser au bout d'un moment. C'est dans ce sens-là. Donc ça devient un peu moins amusant pour moi. Enfin, je sais pas, j'ai fait un concert l'autre soir, c'est pareil, quand je joue trop bien de la musique, je m'embête vite. Alors ça peut être un peu pénible du coup pour les gens qui regardent, je voulais dire autre chose.
Sur le fait de
forcer. Ah oui, si je devais tenter de... je sais pas. Je sais pas comment. Peut-être que je vais plus tellement faire de choses. C'est pas si grave que ça. Mais je me rappelle d'un livre qui m'avait fait donner envie de faire autre chose. C'était le livre de Christophe Hittinger. Il avait fait une histoire qui raconte des choses de manière que j'avais pas vraiment vue avant. Alors peut-être j'avais pas été attentif, peut-être ça existait. Il faisait des grandes images avec un petit peu de texte et ça marchait très très bien. Ça m'avait donné envie de faire quelque chose un peu comme ça. J'ai pas fait finalement. Mais...
C'est Les Déserteurs chez Zeuchi Kuchi, si je ne me trompe pas.
Non, c'était le premier qu'il avait fait. Je me rappelle plus le titre. Jamestown.
Jamestown.
Exactement. Où il raconte l'histoire des premiers colons aux États-Unis avec Pocahontas entre autres. Mais il le raconte de manière très que j'ai trouvé très réussie avec c'est vraiment presque que des dessins de double page assez détaillés mais assez enfin j'aime beaucoup son dessin aussi avec un mélange de styles assez particulier et le rythme est très très différent de ce que je faisais d'habitude. Ça m'avait donné envie de faire des choses comme ça que je n'ai pas fait finalement, mais ça m'avait donné envie de changer. Enfin, c'est le dernier truc dont je me rappelle qui m'a un peu mais finalement ça je l'ai pas vraiment utilisé, mais c'est voilà. Le problème en regardant des choses, c'est que des fois, on se rend compte que les gens font des choses très intéressantes on n'a pas envie de faire la même chose en beaucoup moins bien. Donc, du coup, on ne le fait pas. Quoi.
Justement, par rapport à ça, puisque vous êtes dans une résidence et que par rapport à une pratique qui est généralement solitaire, vous êtes exposé à différentes personnes, comment est-ce que vous vivez à cette confrontation? On a vu des gens ici qui... Mathieu a fait sa première... graffure sur bois, je crois, en début de semaine. Donc, il y a aussi une émulation. Il y a des choses auxquelles vous pouvez avoir accès, comme l'atelier sérigraphique, qui n'est pas forcément le truc habituel.
comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous donne envie justement de sortir de vos habitudes, d'essayer des nouvelles choses?
Oui, enfin là, par exemple, là, je me suis lancé aussi sur la gravure, dans la gravure sur bois. Et en fait, en étant invité ici, ma grande question, c'était comme je passe beaucoup de temps à dessiner et à assurer, je me suis dit, oh là là, le watering, ça va pas le faire. Pardon. Ah oui, avec ta pluie, il faut que je parle plus fort. Voilà. Et donc, lundi matin, j'avais pris un autre outil en me disant, tiens, bon, je vais aller plus rapide comme ça. Enfin, vu que c'est des exercices, des échanges, il faut quand même être assez rapide. Et l'après-midi, je me suis revenu au watering. Quoi. Je me suis dit, enfin, ça ne me correspond pas spécialement. Et je crois que le truc, c'est de... Il faut rester fidèle à la contrainte, il faut rester fidèle à son style, et puis il faut aussi rester, être fidèle par rapport avec la personne avec qui on travaille. Donc, il y a trois paramètres ici qu'on doit tenir en compte, quoi, et que je trouve assez intéressant, parce que du coup, ça, on est obligé d'un peu approcher les choses avec différents angles. Et par exemple, là, en changeant de technique assez radicalement avec la gravure sur bois, je me rends compte que je fais quelque chose de très très proche de ce que je fais, avec un trait, quoi, au watering. Et je ne sais plus ce que je voulais dire avec ça, donc du coup. C'est si on en tire quelque chose. Oui, donc voilà. j'en tire quelque chose. Moi, excusez-moi.
Il y a un truc qui nous est donné à vivre ici qui est quand même, enfin, en dehors des problèmes purement techniques, plastiques, qui font la diversité de nos travaux, c'est la singularité de l'organisation des corps ici, qui est fascinante, des choses qu'on voit jamais, quoi. D'ailleurs, on est chez soi, c'est un travail extrêmement solitaire, il y a là-dedans toute la contradiction même du fait de faire des bandes dessinées, puisqu'au fond... Le paradoxe est que vous avez un travail d'une espèce de grande idéalité sociale, il a une destinée sociale, et le prix à payer, c'est que vous vivez sans société, évidemment. Et ici, dans ce cadre, en dehors de ce qu'on peut constater sur le papier des autres, il y a leur agencement dans l'espace, la façon justement dont ils se tiennent à un outil que vous ne connaissez pas, enfin, cette façon, vous ne la connaissez pas, l'outil, vous le connaissez, il vous est familier. Ce qui est beaucoup moins familier, c'est que d'un seul coup, entre d'autres mains, ce que vous teniez pour juste une théorie, à savoir qu'on est tous très singuliers, s'avère être vrai jusque dans le moindre des mouvements. Et ça, c'est assez merveilleux de voir que, au fond, vraiment, un pinceau, une plume, ne sont pas à proprement parler entre les mains d'un dessinateur, enfin, pour peu qu'il soit enfin un dessinateur, ce qui prend du temps, ne sont plus des outils du tout. Et il y a quelque chose qui se passe entre chaque corps et son outillage, qui est bien autre chose que la mise au travail. C'est une invention de forme singulière, d'agencement, on va dire, entre une créature et ses instruments de travail. Et moi, ça me plaît énormément de voir toutes ces choses. Je me sens très humble devant cette prolifération d'un seul coup de possibilités charnelles.
Bon, puis il y a le côté colonie de vacances, quoi, quand même. Faut quand même pas déconner. C'est-à-dire qu'à partir...
C'est lui qui l'amène.
Ah non, je suis pas tout seul. Je m'excuse, il y a des candidats. À partir d'une heure du matin, ça devient un peu n'importe quoi, mais c'est très drôle. Alors, on s'amuse beaucoup. Je pense que c'est... C'est assez... Non, mais c'est très bien de s'amuser avec des gens qui font un peu les mêmes choses que nous. Enfin, que moi. Enfin, que... Ouais, que je sais pas comment le dire. Non, mais... Alors, ce qu'on produit n'est pas forcément très intéressant à cette heure-là, mais c'est très... ça détend... Enfin, ça... Bon, on s'amuse, quoi. Simplement. Ce qui est quelque chose d'assez agréable, parce qu'on ne s'amuse pas tous les jours. En faisant... Enfin, c'est pas non plus horrible, hein, mais... c'est pas forcément un truc où on rigole toute la journée, quoi. Et là, surtout après 1h du matin, quand Benoît Pretzel est là, quoi.
Une dernière chose pour la profusion des nouveautés qui qu'offre ce genre de situation, c'est qu'à partir du moment où on travaille à plusieurs mains, on se trouve énormément contraint dans nos mauvaises habitudes, justement. Si vous commencez un récit et que vous travaillez avec quelqu'un qui a une tout à fait autre perspective que vous sur la question, vous devez poursuivre ensuite dans une direction complètement inattendue pour vous. Ça, c'est plutôt pas mal. On se retrouve à... d'une certaine manière, à raconter des histoires comme on ne l'aurait jamais fait seul. Ça ne nous serait même pas venu à l'idée. Et on repart chez nous, je pense, riche de plein de nouvelles possibilités. Enfin, moi, il y a beaucoup de choses. C'est la troisième fois que je viens ici. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises ici. Et j'ai gagné en liberté de travail par le simple fait d'avoir cohabité avec des créatures si différentes de moi.
Pour Mathieu.
Yeah, well, it's like a summer camp.
Ça ressemble vraiment à une colonie de vacances.
Or a prison.
Oui, ou une prison.
You have walls around you and free food.
Il y a des murs tout autour et puis on est nourri gratuitement.
I'm not so. I haven't done many of the actual like the assignments, but I was working on the woodcut and it was really like inspiring. And I think the main thing, at least for me, and I think what I've talked about with like Anton and other people, it's there's a lot of like energy going on in the room, and when everyone is like working, it's you seldom, when you have a family and all, you seldom have a chance to start working at 9 and stop at 11. So basically this is like an energizer.
Je n'ai pas beaucoup participé aux exercices, mais c'est vrai que la première gravure sur bois, c'était quelque chose qui était très enthousiasmant. Et puis, il y a le fait de travailler avec tous ces gens. Il y a beaucoup d'énergie autour de ça, des gens qui font la même chose. Et c'est aussi par rapport à quand on est une famille. Ici, on a la possibilité de commencer à travailler à 9h du matin et puis s'arrêter à 11h du soir. Ça permet aussi d'être vraiment à fond dans les choses.
Oui, par rapport, puisque en regardant sur le blog dans la semaine les différents événements liés, il y a aussi j'ai l'impression un rapport à la musique qui est particulier. J'ai l'impression que quand on voyait des concerts qui avaient été organisés, qu'il y a énormément d'auteurs qui sont aussi travaillent aussi avec l'art musical, des instruments ou autres. Et est-ce que vous avez le sentiment que, puisque je pense que vous faites de la musique, vous, est-ce que vous avez le sentiment que la musique est quelque chose qui est lié à votre activité de la BD ou absolument pas ? Est-ce que vous tracez un lien ? Est-ce que ça vous permet d'avoir une autre expression ? Est-ce que ça vous offre finalement autre chose ? De très différents, de complémentaires.
Tu réponds en premier ?
Ouais, peut-être tu vas prendre une heure.
Ça va être rapide.
En ce qui me concerne, c'est juste quelque chose que j'aime bien faire naturellement, comme la bande dessinée, comme d'autres choses. Donc voilà, je trouve que j'en fais aussi. Je pense que je le fais un petit peu de la même manière, c'est-à-dire. Je ne sais pas comment définir ça, mais.
Par-dessus la jambe.
Un peu par-dessus la jambe, ouais. Et le je sais pas, j'y mets une espèce de même approche, mais ça a un peu rien à voir. Mais il y a beaucoup de gens. Enfin, j'ai fait des mathématiques aussi dans ma vie. Tu peux aussi m'applaudir. Et donc, et c'est un peu le même genre de profil. En fait, c'est des gens qui font c'est presque tous des garçons déjà. Et c'est des gens qui font des choses un peu tout seuls chez eux. Ils compensent très souvent en faisant des activités très sociales, qui sont la musique, par exemple. Que souvent c'est 13 ans. Alors moi, je le fais tout seul, il se trouve. Mais la plupart des gens le font à plusieurs, en des groupes, etc., etc. Donc je sais pas si c'est un besoin psychologique, enfin de compensation absolue, de devoir aussi avoir une activité en groupe. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué très souvent, en tout cas.
Bien. Ben, je sais pas, moi je joue pas vraiment. Donc j'ai quand même un petit clavier que j'utilise le soir parfois après avoir dessiné et je fais absolument n'importe quoi, ce qui me détend pas mal, vu que par rapport au dessin, je suis plutôt concentré, quoi, donc voilà. Mais la musique se rattache, ici bizarrement, il y a un truc que j'aime pas quand je dessine, c'est le silence, quoi. Donc je suis chez moi, je mets de la musique, ça peut être de la noise, ou de la musique classique, ou des drones, ou des choses comme ça. Et ici bizarrement, il y avait pas mal de conneries qui se disaient, pas mal de gens qui parlaient, beaucoup de brouhaha, et en fait, ça ne me perturbait pas du tout par rapport au fait de dessiner, quoi, ce qui était un peu. Ben oui, mais ça participe en fait à l'énergie qui se dégageait de ici.
Je comprends bien
ce
que
vous
captez, c'est micro. À mon avis, ça va être un peu spécial. Bah, voilà. En parlant de musique, oui.
Ouais, c'est intéressant.
Oui, c'est très très.
Le petit clapotis là.
Bon, ma part, la question ne se pose jamais vraiment en ces termes. C'est-à-dire que. C'est sympa. Faire de la musique ou dessiner ou écrire, C'est juste souvent comment dire, la perspective de faire quelque chose dans une journée prend une tournure, et à cette tournure, une forme de travail répond. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je peux avoir envie de formuler et qui deviendront de la musique, mais comme la chose la plus naturelle du monde. Je ne sais pas s'il y a vraiment ni s'il y a vraiment de lien, parce que pratiquement assez peu, mais c'est pas non plus très très disjoint, parce que quand tu dessines, enfin pour ma part, ça se passe beaucoup comme ça. Il y a une forme de rythme du dessin qui est très hypnotique aussi, qui répond d'une certaine manière à ce que j'ai pu apprendre en faisant de la musique. C'est plutôt en termes d'apprentissage en fait que je le penserais, si, pour répondre à ta question. Ce que j'apprends de la musique ne m'apprend pas que la musique. Tu vois, il y a des choses comme ça terribles qui n'apprennent que ce que l'on fait avec elles. Si vous apprenez à jouer aux échecs, vous serez bon aux échecs, mais vous serez un parfait connard dans tout le reste de votre vie. Enfin, c'est pas avec les échecs que vous apprendrez quelque chose d'autre que jouer aux échecs, quoi. Alors que. Ah oui, c'est ça.
La victoire humble et la défaite, comment on dit ? Digne.
La défaite digne. Alors que. Bon, Mathieu a une autre expérience en met-il des échecs et des joueurs d'échecs, parce que la plupart, enfin tous les joueurs d'échecs que j'ai rencontrés étaient des gens terriblement emmerdants dehors des échecs. Et quand tu fais de la musique, tu dessines ou que tu écris, j'ai l'impression que ça s'ouvre à énormément de perspectives autres que celles du simple truc que tu es en train de faire, quoi. C'est très contagieux finalement. Il y a une vraie contamination entre les différents champs d'exploration et du coup. Il n'est pas rare que dans certains moments où mon écriture est mise en échec de façon classique, c'est-à-dire je ne sais plus comment écrire telle chose ni comment dessiner, une forme musicale prenne le pas et donne le nouveau rythme que peut prendre le récit. Tu vois, lui impose finalement une structure ou quelque chose. Voilà, c'est.
Merci.
Oh, well, yes. I don't play any instrument or anything like this, but I certainly find like similarities in my work to music.
Je ne joue pas d'instrument de quel que ce soit, mais c'est sûr que je trouve quelques similarités entre mon travail et la musique.
There's a quote in the Chris Ware monography from Goethe, which goes like. Architecture is like frozen music.
Il y a une citation dans la monographie de Chris Ware de
Goethe.
Donc il y a une citation de Goethe qui est citée dans une monographie sur Chris Ware qui dit que l'architecture c'est de la musique gelée ou de la musique comment dire plutôt. C'est de la musique qui est comment on pourrait dire figée, oui, merci. Voilà.
So I think it in the volumes that exist in like architecture and music, there's some similarities to the volumes that exist in comics.
Les volumes qui existent dans l'architecture et la musique sont similaires, sont proches des volumes qui existent aussi dans la bande dessinée.
I'm a complete idiot when it comes to mathematics, but I think that basically my sort of philosophy in arts is like that music is like the root of all art, and beyond music is mathematics.
Je n'y connais strictement rien en mathématiques, mais c'est ma conviction intime que la musique est à la racine, est à l'origine de tous les arts, et que au-delà de ça, il y a les mathématiques.
As for like more like down to earth stuff, when I'm working, I like to listen to music. We share a studio with my wife and. She doesn't allow me to play my music, but when I get a chance, it's sometimes jazz, like John Coltrane, or sometimes like opera, sometimes Black Sabbath. sometimes Motorhead, sometimes Frank Zappa, sometimes Captain Beefheart. It varies a lot.
J'aime beaucoup écouter la musique pendant que je travaille, mais comme je partage un atelier avec ma femme, elle ne me laisse pas toujours écouter ce que j'ai envie d'écouter. Sinon, ça peut aller de choses très variées, du John Coltrane, du Black Sabbath, du Motorhead, ou Captain Beefheart.
Oui, ce qui pour conclure, effectivement, ce qui est la préface d'Oscar Wilde dans son portrait de Dorian Gray, qui fait tout un texte sur l'idée, effectivement, que la musique est en gros la mère de tous les arts. Et je pense sur ce, nous allons conclure cette causerie et demander, voir si le public a des questions à poser aux auteurs.
Qu'est-ce qu'on mange?
Moi, je pense que vous êtes tous des estomacs. Alors
voilà, donc le prochain rendez-vous est à 17h sur la... Oui. Voilà, effectivement, il y a une conférence.
Non. C'est juste pour dire qu'il y a aussi une conférence de Thierry Grunstein à 15h dans l'autre salle en face, salle Mijon, sur les liens entre bande dessinée et art contemporain. À mon avis, ça ne sera pas inintéressant. Voilà.
Merci à tous.
On ramène...